Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du President's Club. Chez Rocket for Sales, nous avons lancé ce podcast car nous sommes extrêmement privilégiés. Nous rencontrons des personnes d'exception ayant un parcours remarquable dans la gestion des équipes commerciales dans l'univers des logiciels. Aujourd'hui, nous avons un invité détonnant sur le marché. C'est une des rares femmes à avoir pris des postes de management dans les meilleures boîtes de la tech. Son nom est Caroline Francia. Elle a un magnifique parcours en France et aux US dans des sociétés telles qu'Oracle, Mentor Graphics, BMC, Sprinklr ou encore Datadog. Son histoire est remarquable car tout en étant maman, en passant dans le management chez Sprinklr et Datadog, elle a su apporter une fulgurante croissance chez ces derniers. Sans plus tarder, je laisse place à ma discussion avec Caroline Francia.
Bonjour Caroline.
Salut Clément.
Ravi de t'avoir sur le podcast du President's Club.
Bah, avec grand plaisir.
Déjà, tu es la première femme qu'on reçoit sur un épisode. Donc, on est super content et honoré parce que tu as déjà eu un super track record dans l'univers de la tech, sur des belles sociétés de la tech et des beaux postes de sales et de management. Mais d'abord, pour commencer, c'est que je sais que tu as lancé ton bouquin, tu as écrit un livre, tu as monté ta boîte. Comment tu as fait comment tu as trouvé toute cette énergie pour lancer tout ça?
Alors, je pense que pour ceux qui me connaissent, en fait, l'énergie, c'est pas un problème. C'est plutôt, faut la canaliser. En fait, à la fois, enfin, le Covid a été un accélérateur parce que t'enlèves, tu sais, toute cette distraction de te déplacer, etc. Donc, en fait, t'as beaucoup plus de temps dans la journée. Et puis l'envie aussi de faire partie de la communauté et d'aider tout le monde, d'aider tous ceux qui se sont retrouvés dans des situations, donc quand je dis tous ceux, c'est toutes les startups un peu françaises et européennes qui se sont retrouvées dans une situation Covid d'un seul coup, en disant mais je fais quoi, ma value prop, il se passe quoi, mon go-to-market, mes clients. Et donc avec l'ouverture des office hours en mode pro bono, donc vraiment all hands on deck, on aide tout le monde, en fait ça a boosté énormément de conversations passionnante avec des CEO et la volonté d'écrire un follow-up qui s'est transformé en article, qui s'est transformé en livre en fait.
D'accord, ouais.
Donc si tu veux, tout s'est accéléré, c'était pas du tout prévu.
Ouais.
Je pense qu'on a déjà parlé de ça.
Ouais,
il faut prendre l'opportunité comme elle arrive, il faut se laisser surprendre. Et en fait, au bout de quelques mois avec ce contenu, on s'est dit ok, il y a encore beaucoup de contenu à écrire, il y a beaucoup de choses à construire. Et là, le livre 2. Est en écriture, voilà, je suis à peu près, je suis on track,
ouais.
À fin Q1, j'écris un quart.
D'accord, donc on se revoit dans 5 ans et il y aura les 5 tomes.
Écoute, je sais pas, mais là, en tout cas le livre 2 est en écriture.
Ouais. Donc du coup, rappelle-nous pour qu'on comprenne, donc aujourd'hui tu accompagnes les startups scale-up.
En fait, on m'appelle souvent, forcément j'ai un background très commercial,
ouais.
Donc j'ai un background assez classique de inside sales qui passe sur le terrain, qui passe client exécutif, qui passe global account manager, ouais. qui passe manager, directeur co, etc. Jusqu'à RVP et du coup un vrai background sales bien ancré,
ouais.
Sauf que j'ai intrinsèquement une croyance qu'en fait, c'est pas le sales qui doit être responsable du revenu et qu'il faut travailler vraiment tous ensemble dans la boîte,
ouais.
Avec un alignement parfait de toutes les équipes, que ça aille de SDR à Customer Success, à Account Manager, mais aussi à travailler avec le produit. Il y a trop de gens qui travaillent pas avec le produit. Donc en fait, je travaille vraiment avec les execs d'abord pour bien identifier, diagnostiquer ensemble ce qu'on veut accélérer ou ce qui va pas très bien. Est-ce qu'on a un problème de forecast? Est-ce que le forecast, c'est vraiment que les sales ou est-ce que c'est plus global? Est-ce qu'on a un problème de churn? Le churn, tout le monde est responsable du churn. Donc, en fait, j'aime bien dire plutôt avoir un impact sur le revenu. Moi, mon objectif, en fait, quand je prends une mission, c'est de pouvoir me dire « Ok, je sais où je peux avoir un impact sur le revenu. » Et je pense que toutes les équipes peuvent et doivent avoir un impact sur le revenu.
Ouais.
Donc aujourd'hui, c'est ça et ça se traduit par effectivement des missions plus stratégiques, des missions de transformation aussi, des équipes, pour être plus, comme on en a déjà parlé, enterprise stratégique dans la manière de vendre, avec le développement des potentiels dans les équipes, mais pas que sales. D'ailleurs, je ne fais pas de mission sales en méthodologie.
Ouais.
C'est all customer facing au minimum.
D'accord. Et si on refait un peu ton parcours en quelques mots, tu as démarré, tu disais Inside Sales.
Inside Sales chez Computer Associates, c'est vrai.
D'accord.
Ouais.
Ok, wow.
C'était il y a longtemps.
C'était il y a longtemps.
Si je devais commencer ma carrière là maintenant,
ouais.
Mon dada, si je devais prendre un job, admettons, en sortie d'école, je pense que j'essaierais de choper avec les dents un job de chief of staff d'un CEO de startup, tu vois.
Ouais.
On va prendre vraiment tous les rouages du métier.
Tous les rouages du métier d'une société,
ouais.
Pour te faire grandir plus rapidement.
Ouais. Ouais, pour faire un grand bond en avant. Et je pense qu'on était vraiment shadow du CEO en mode chief of staff. T'as à la fois beaucoup de responsabilités parce que tu dois prendre les notes, filtrer, etc., etc. En même temps, tu vois tout ce qui se passe. C'est un accélérateur de dingue.
Et donc là, ouais, donc tu démarres en inside sales chez Computer Associates, puis Oracle. Comment tu évolues après ça?
Alors, j'évolue parce que je suis très, très impatiente. Et en fait, je me rends compte chez Computer Associates qu'il y a des gros deals qui me passent à travers, qui me passent à travers les doigts parce que je les trouve, mais en fait, on les donne à des account execs. C'est qui ces gens-là? Moi, je veux faire ça. Mais on me dit, attends, t'es trop jeune. Après, du coup, je vais chez Oracle où là, je suis sur Oracle Direct à l'époque. Donc, c'est des comptes enterprise, donc des grands comptes. Mais en fait, tu faisais des deals à 120K maximum. Et là, c'est pareil, je me rends compte qu'en fait, pour aller sur le terrain, il faut faire 4 ans chez Oracle Direct derrière le téléphone et c'est pas possible. Quoi, tu
c'est
vois,
pas pour toi.
Non. Du coup, j'ai pris au vol l'option mentor graphique et c'était un truc pas forcément connu. Tu vois, c'était en banlieue, c'était loin. Mais canon, parce que c'est là où j'ai pu faire mon premier deal, plus d'un million d'ailleurs. Presque 2 millions.
D'accord.
Aller au President's Club.
Ouais.
Premier President's Club. Occasion de commencer à vraiment être sur le terrain, comprendre tout ce vrai milieu American sales, etc. Ouais. Rencontrer les CRO.
Comment tu as réussi à faire ce deal à 2 millions?
Tu sais, quand on s'est parlé, je te disais, un commercial qui n'a pas de chance, et pas un bon commercial, c'est la loi de l'attraction. En fait, j'étais sur je ne vais pas le nommer, mais j'étais sur un compte chez Oracle. Et quand j'ai fait les démarches, en fait, ce compte-là était un compte à gros potentiel dans la boîte dans laquelle mon vendeur graphique. Et la personne qui m'a recruté m'a dit, mais en fait, tout de suite, on a parlé de l'acheteur. Je connaissais l'acheteur. Il m'a dit, je vais te donner ce compte. Si tu n'as rien, je te donne ce compte. Il est enclenché. Donc, si tu veux, c'était pas du nouveau logo comme on peut voir maintenant quand tu arrives en startup, etc. Il y avait déjà, c'était un peu chaud. Par contre, effectivement, travailler tout le pricing, etc., ça, c'était une première chose, une première expérience pour moi. Et oui, j'étais très accompagnée au niveau du
management. Ouais, ça devait être un moment assez euphorique.
C'était assez euphorique et en même temps, je me suis pas reposée sur ce deal. Je pense que si c'est un conseil à donner à des gens qui ont des mammouths dans leur pipe. C'est qu'en fait, si ce deal-là ne se fait pas, tu te retrouves à zéro et c'est catastrophe. Mmh. Et en fait, du coup, j'ai explosé cette année-là parce que j'avais travaillé des deals à côté beaucoup plus petits, tu vois, entre 300 et 400K, mais qui m'avaient permis, en fait, si tu veux, de... Donc, je crois que j'étais à 220% cette année-là.
D'accord.
Et donc, j'ai démarré l'année suivante. Je crois que l'année suivante, j'ai dû faire 150. Ça commençait des deals vraiment significatifs. Pour un début de carrière, parce que je faisais des deals à 700, 800K toute seule.
Ok.
Ouais,
mais ça va super vite. Et tu pars aux US après?
Ouais, donc en fait, je vais au President's Club et là, je rencontre le CRO. Il me dit, mais tu veux faire quoi plus tard? Enfin, tu vois, la question à deux balles. En fait, tu es tout dans 5 ans. Et en fait, il n'a pas compris que moi, tout est tout tracé. Je dis, en fait, moi, je voudrais aller aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai mis une lettre au département ressources humaines pour aller muter. Et puis, tu vois, ça, c'était entre la poire et le dessert sur le Bosphore, parce que c'est des President's Club en Turquie, à Istanbul. Ah ouais. Et en fait, 7 mois plus tard, il me convoque lors d'une QBR. Il me dit, tu te souviens, tu m'as parlé des US, t'as fait ta demande officielle. Et il y a un job qui s'ouvre à San José, c'est à 45 minutes de San Francisco. Et c'est effective immédiatement. Donc, effective immédiatement, je dis, mais avec combien de mois de retard? Et là, ce qui m'a sauvée, c'est qu'en fait, j'avais un autre deal en cours. En fait, il ne voulait pas que je le laisse, etc. Donc, il m'a dit, OK, tu closes ce deal. Et coup de bol, en fait, il m'a fallu 3 mois pour closer ce deal, mais sinon, en fait, je crois que j'aurais dû me taper des allers-retours, etc. Bon, après, il y a les ressources humaines qui ont stoppé un peu en disant « Attention, un visa, ça se fait pas en 5 minutes, tout ça, tu peux pas la faire partir. Ouais. » Mais en gros, en 4 mois, j'étais mariée, appartement vidé et déménagée,
Donc, tout à vitesse grand V.
Ouais.
Mais alors, du coup, t'étais premier sales.
Ouais, électrochoc, parce que j'étais toute seule. Donc, j'étais dans une BU de mentor graphique, qui était la BU embarquée. Et en fait, c'était une petite BU, c'était une boîte qu'ils avaient rachetée. Et du coup, mentor graphique, c'est quand même un gros nom. Ils font des deals à des dizaines de millions.
D'accord.
Faut le savoir. Donc, tu veux, moi, mon petit deal à 1 million.
Ils étaient contents.
C'était royalement. Et j'étais toute seule et sur un marché, en fait, qui avait pas été. Enfin, là, maintenant, on parle de la Silicon Valley. OK, c'est 2021. Là, on parle de 2007. Facebook existait, balbutiait à peine à l'époque. Donc, il y avait toujours des grosses boîtes, mais il n'y avait pas encore un marché hyper un vivier de startups comme il y a maintenant. Donc, du coup, je suis allée voir en fait tous les account managers seniors, tu vois, des autres BU en disant salut, je suis Caroline, bon, alors je viens de débarquer avec mon petit accent français, tu vois. Et puis, faire copain-copain pour essayer de rentrer sur leur compte, pour qu'ils fassent des warming production, etc. Et donc, ça s'est pas mal passé du tout.
Ouais. Donc, du coup, tu restes là-bas pendant combien de temps?
Je suis restée là-bas 2 ans. Aux US.
D'accord.
Et puis après, je suis tombée enceinte. Ça a été un peu compliqué. Ils sont des prématurés, les jumeaux. Du coup, j'ai arrêté de travailler pendant 1 an.
Ok.
Et c'est le moment où on s'est dit, ok, ben là, faut rentrer, qu'on soit proche de la famille, qu'on ait un soutien moral, parce qu'on était en 9 heures de décalage, et 12 heures d'avion, c'était chaud, quoi.
Ok, donc un gros challenge. Et là, tu reviens à Paris, tu rentres chez BMC. C'est ça?
Ouais.
BMC. Ouais. Ok.
L'aventure d'une vie.
Ouais.
Ouais. Ouais. Humainement, tout. Enfin, je pense que tu sais. Enfin, je parle souvent de être unconsciously competent, donc pas savoir pourquoi tu es successful, à consciously competent. Et ben là, ça a été la claque en fait. Ça a été de me dire, en fait, je fais de la vente artisanale. Je me débrouille bien parce que j'ai le bagou, parce que machin. Et là, je comprends comment je peux méthodiquement reproduire ça systématiquement et être une machine de guerre.
Tu passes à la version augmentée de toi-même.
Voilà, c'est ça, exactement.
Donc, tu cartonnes. Tu cartonnes et là, si je me souviens bien, toi, tu avais une ambition, c'était de devenir gamme, c'est ça?
Ouais. À l'époque, il y avait c'était Thibaut qui était country manager et je crois que ça faisait 2 mois que j'étais là. J'étais Thibaut, je vais être game. Le poste n'existe pas. Mais ok, mais comment on fait pour Donc bon, il m'a un peu envoyé bouler en me disant que tu me fais chier. Et effectivement, au bout de la 3e année, j'étais game BNP
et
AXA.
Et qu'est-ce qui se passe
en fait, je pense qu'une fois que je suis arrivée gamme, tu sais ce que tu disais, au bout d'un moment, quand t'arrives, tu te dis ok, what's next? Et en fait, je crois que le côté gamme finalement était intéressant, mais j'arrivais pas à faire autant de développement. Tu sais, ce côté nouveau logo, de gagner un nouveau logo, de commencer une relation avec un compte, tu l'as beaucoup moins dans le côté gamme. Je pense que c'était presque. Je ne vais pas dire administratif, mais quand même, tu vois, il y avait une grosse partie de gestion. Et du coup, j'avais du mal un peu à trouver ma place. Je pense que la personnalité faisait que j'avais besoin de toute façon, à un moment donné, de me faire challenger. Et en fait, c'est à l'époque où j'ai rencontré Sprinklr, donc la première start-up, on va dire, start-up américaine. À l'époque, il était 8 dans le bureau, parisien, rencontré avec Sébastien Boitel.
Okay.
Et quand j'avais annoncé à Stéphane Chantalou, qui était le patron BMC France à l'époque, il me dit c'est ta route, quoi, tu vois, il n'y avait pas de OK. Et du coup, voilà quoi, première start-up.
Ok, première start-up. Mm-hmm. Donc 8 sur le bureau parisien.
8 quand j'ai signé mon offre et ils étaient déjà 16 quand je les ai rejoints.
Ah ouais, donc ça allait très vite.
Bah, quand t'es gamme, en fait, tu fais pas un préavis accéléré.
Tu prends les 3 mois.
Ouais.
Ok.
Je crois qu'ils étaient 800, je crois, quand j'ai rejoint. Puis après, ça a vite augmenté. Il y a une croissance de 3x par an. Enfin, c'est un truc de dingue.
Ouais, donc du coup.
Je crois que quand je suis partie, on était 50 dans le bureau français.
Et donc là, tu rentres sales, mais je crois que tu as évolué vite manager.
Ouais, au bout de même pas 6 mois en fait.
6 mois, tu passes ouais. à manager, ok.
En fait, quand j'ai quitté BMC, j'avais pas du tout envie d'être. Enfin, tu m'aurais dit manager, c'était pas envisageable question, parce que ouais. j'avais cette vision du manager chez BMC où il y avait beaucoup de reporting, ouais. beaucoup de responsabilités, tu sais, le truc beaucoup plus gros.
Ouais.
Et en fait, chez Sprinklr, c'était très différent parce qu'on était quasiment que en ouverture de nouveaux logos. Donc ouais. l'idée, c'était vraiment d'être un manager beaucoup plus terrain, beaucoup plus dans le coaching. Et dans la méthodologie, donc Sprinklr était déjà force management, médic playbook, etc. Donc, je m'étais appris le playbook de par cœur. Et quand Seb a annoncé, ben voilà, je vais ouvrir 2 équipes, donc 2 managers en dessous de moi, en fait, tout de suite à la fin du meeting, je suis allée voir en disant, ben ok, banco, moi je veux en être, si tu recrutes en interne, en tout cas, enfin, s'il y a une possibilité, ouais. Et puis le soir même, j'ai écrit mon business plan et je vais présenter mon.
D'accord.
Voilà.
Donc l'employé idéal, on lui a pas demandé, elle le fait. Ok, génial.
J'ai compté en fait.
Ok, et donc comment ça se passe cette montée en management, parce que c'est...
Ben c'est une montée qui est à la fois hyper excitante et à la fois hyper dure humainement parce que quand t'es manager, et ben t'as des choix à faire. De choix de compte, de machin, etc. Et émotionnellement très difficile. Enfin, moi, j'ai trouvé cette période à la fois géniale
ouais.
et à la fois difficile parce que ton premier job de manager, ben, y a un côté émotionnel que tu... D'ailleurs, là maintenant, je parle avec des gens qui deviennent managers, mais moi, j'aime pas virer les gens, mais je dis... Personne. J'aime virer quelqu'un. Enfin, c'est pour ça que, tu vois, quand je te disais, moi, j'aime pas hire and fire, je préfère prendre le temps de recruter, quitte à faire 100 entretiens pour un. Donc, il y a des moments chauds, des moments exceptionnels où on a signé des deals incroyables. Je prends l'équipe en janvier, je la monte. Donc, au début, j'ai 2 personnes dans mon équipe.
D'accord.
On arrive très vite à 5. On a un panier moyen qui est de, à l'époque, je crois, 40K.
D'accord.
Au bout de 6 mois, on a 124 paniers moyens.
Non.
Ouais.
OK.
À la fin de l'année, on a un panier moyen qui est au-dessus de 200K. On a signé notre premier nouveau logo à plus de 700K. Des belles choses. Ouais.
Alors qu'est-ce que tu mets en place, comment tu fais pour faire accélérer tout ça?
Operating rhythm, ça okay. Je pense que tu es n'importe qui me parle, c'est quoi l'operating rhythm? Donc operating rhythm, ça veut dire des one-to-one de 1 heure où il y a des deal reviews, je suis pas juste à faire le relevé de compteur, je vais voir où est-ce qu'il y a des gaps, on déroule les gaps. Je suis pas du tout dans le count plan pour faire de le count plan, mais plutôt moi je vais parler de choses comme du PRP, donc pipeline reconciliation ouais. plan, c'est en est où ton pipeline, où est-ce que tu vas le créer, etc. Parce que quand tu as un nouveau logo, en fait, tu veux pas passer trop de temps en théorie, tu vas être dans l'action, mais dans l'action stratégique. Et un truc qui est mon grand dada, c'est les value pyramides.
Ouais.
Un value pyramide, c'est vraiment compréhension de ce qui se passe chez ton client en un seul slide. Donc okay. ça veut dire qu'il faut être concis, il faut être efficace, il faut être stratégique.
Okay.
Ça demande énorme. Enfin, d'ailleurs, je pense que tu as eu Yvan en podcast.
Ouais.
Yvan s'est assis à côté de moi un jour chez BMC où je m'arrachais les cheveux en disant « Je n'arrive pas à faire cette value pyramide !» Je me dis « Alors, attends, il y a une logique derrière tout
ouais.
ça.
Ouais. »
Mais la value pyramide, résumer un slide, c'est hyper puissant parce que si tu connais ton compte en un seul slide, tu ne ouais. perds pas des conversations qui ne servent à rien, tu vas direct to the point. Et quand tu parles à des partenaires, quand tu parles à quand tu fais de la prospection, en fait, tu sais où t'es. Tu parles à ton médiaire, puis okay, on va parler de ça. Donc value pyramide avec des value pyramides cliniques tous les vendredis. C'est-à-dire
D'accord.
que tout le monde devait venir avec sa value pyramide pour avoir une clinique avec l'équipe. Et puis des plans de territoire où je demande d'aller chercher dans la créativité des gens. C'est-à-dire on va pas juste se limiter à faire des emails et des calls pour faire la prospection. De quoi vous avez besoin? Comment on met les choses en place? Il y a eu des super idées qui sont sorties dans l'équipe comme le cercle des CDO. Donc, on a créé ces petits dîners hyper exclus de 6 personnes, dîner parisien, où tu as un host qui est un client et en fait, l'idée, c'est de ne pas parler de la solution, mais vraiment de créer des liens. Ça a créé un business de dingue, il y a des vrais liens de fond.
Ouais,
en fait.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Voilà. Donc, okay. Operating Rhythm, c'est la réponse
courte. Ok, et donc, ouais, t'accélères à fond. Donc, President's Club encore.
President's Club au Mexique,
ouais.
avec l'équipe.
Ok, avec l'équipe en plus, ouais.
Donc, c'était ma première année de manager et une reconnaissance assez dingue qui est d'avoir reçu le award du meilleur directeur commercial au monde.
Ah ouais,
ouais.
Génial.
Donc, double peine. Donc, c'était vraiment, vraiment incroyable. Et puis une année suivante qui est beaucoup plus compliquée. Alors, au niveau du business, ça déroule super bien. On fait premier deal français à 5 millions.
D'accord.
Donc okay. Là, on commence vraiment à monter dans les tours. Mais avec un changement managérial
un peu costaud
qui dure pas que Raji, qui est le CEO, remplace, mais avec lequel je me sens plus du tout alignée d'un point de vue humain, en fait,
d'accord,
en termes de valeur. Et donc, du coup, break.
Ok, donc t'as senti le vent venir, tu sais, ouais, il faut que je prenne une pause.
Ouais, j'ai convoqué l'équipe, on a fini le deal là, pour finir sur une note vraiment, vraiment canon.
Donc là, tu te prends un break de quelques mois.
Alors ça, c'était l'idée. En fait, je sors en juillet et je me dis, bon, ben ok, voilà, on verra bien ce qui se passera. Et puis, très vite, Seb, qui était parti aussi, m'appelle et me dit, bon, j'ai trouvé un truc, faut que tu viennes, rejoins-moi, tu vas prendre l'Europe du Sud, etc. Et je dis, non, mais là, c'est mon été, je suis en vacances, ouais. Fais quelques entretiens juste pour voir.
Ouais.
Et là, c'est l'aventure d'Atadoc qui commence.
D'accord. Donc là, tu reprends un poste presque quasi direct.
Ouais, j'ai quand même fait une retraite de yoga, deux retraites de yoga, une à Bali, une en Thaïlande, d'accord, j'ai passé un mois au Portugal. Enfin, tu vois, j'ai quand même. C'est-à-dire que c'est la première fois de toute ma carrière que je prenais deux mois. Et deux mois off, sans être entre deux jobs. Enfin, si tu veux, j'ai toujours enchaîné un job avec un autre. Et là, j'avais plus d'email. Le téléphone ne me servait plus à rien. Et ça, c'est une grosse différence. C'est-à-dire que quand tu es commercial, tu as beau dire « ouais, je suis en vacances », je ne vois pas le commercial qui ne check pas ses emails. En fait, t'es CEO de ta propre boîte.
Mm-hmm.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il se passe un truc, moi, je me souviens, j'étais partie en vacances contre la vie chez BMC. J'avais fait mon quota annuel. J'avais exposé, j'avais plus de deal. J'ai dit, écoute Stéphane, laisse-moi partir. C'était la dernière semaine de la fiscale.
Ouais.
Il dit, non, ça ne se fait pas. Je veux pas que tu partes et tout. Par rapport à tes collègues, je dis, non, je n'en peux plus. C'est le moment où je peux partir. Ça s'aligne pour la famille. J'y vais. Et en fait, j'ai signé trois deals depuis l'île Maurice.
Ah ouais.
Donc, c'est pour ça que tu déconnectes jamais, même quand tu es en vacances.
Ouais. Et là, tu parlais yoga.
Là, du coup, j'ai stoppé pendant deux mois sans email. Vraiment le break entre Sprinklr et Datadog.
D'accord.
Ouais, du yoga.
Et c'est un point important parce que bon, on sait qu'il y a tout un engouement autour de ça aujourd'hui, mais ouais, quel bénéfice ça t'apporte?
Enfin, en fait, ce break, il était nécessaire parce que, comme je te dis, chez Sprinklr, c'était ma première expérience en tant que manager. Donc, il y a beaucoup de choses que je prenais à cœur, au cœur de l'émotion, etc. Et en fait, j'avais besoin aussi de grandir et de devenir plus mature sur ce côté leadership. Et je pense que ce break m'a permis de prendre de la distance par rapport à tout ça et aussi de me dire, en fait, finalement, un des trucs d'ailleurs dont je parle dans le livre, on sait tous qu'en fait, il ne faut pas boire 15 cafés par jour. On sait tous qu'il faut dormir suffisamment. On sait tous qu'il faut manger et faire des pauses pour manger, on sait tout ce qu'il faut, prendre du temps pour soi, on le fait pas. Et en fait, ce truc de le savoir et de pas le faire, c'est ça qui te conduit au burn-out, parce qu'en fait, au moins tu prends le temps pour toi, au plus tu es dans l'émotion, au plus tu es dans le stress, au plus tu réagis. Et donc du coup, quand j'ai commencé chez Datadog, je me suis mis un rythme, operating rhythm, où c'était mandatory, il fallait que je prenne soin de moi.
Ouais.
Donc, en fait, si tu veux, le yoga, c'était une fois par semaine. Le lundi, j'avais un break entre midi et 14h. Personne ne pouvait me joindre.
Ta semaine, tu prends un créneau pour toi.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Quand tu le compares aux années précédentes, quel impact ça a eu?
Alors, comme j'ai fait un break en Thaïlande, j'ai appris la boxe aussi en Thaïlande.
Ah ouais?
Du coup, quand je suis revenue, ben, hyper fit first. Hein.
Ah, exactement.
Bien vu. Du coup, quand j'ai commencé chez Datadog, j'avais ce break qui était en plein milieu de ma journée du lundi.
Ouais.
Hyper nécessaire parce que le lundi, c'est là où tu te prends la charge de ouf.
Ouais.
T'as les meetings, t'as les forecast calls, etc. Donc, ça permettait vraiment de démarrer la semaine de manière posée. Et tout le monde c'était naturel, en fait, si tu veux. Une fois que tu poses tes limites, en fait, tout le monde respecte ces limites-là. Mmh. C'est comme, comme j'avais, on en a parlé, hein, j'ai les jumeaux, en fait, quand j'étais chez BMC, bon, bah voilà, je travaillais avec, on parlait de femmes dans la tech, ouais. On n'était pas nombreuses.
Ouais.
Et en plus, tu n'avais que des mecs qui, voilà, qui rentraient à la maison à 20h sans aucun problème.
Ouais.
Et moi, en fait, ce n'était pas une option. Donc, en fait, j'étais à 18h, je suis partie parce que je voulais avoir ce moment avec les jumeaux le soir et je voulais être une maman qui soit présente le soir. Surtout que ça passe beaucoup trop vite, en fait. Donc, je partais à 18h systématiquement. Par contre, effectivement, je rebossais régulièrement. Ouais. Une fois que les enfants étaient couchés, je me reconnectais, je finissais ce que j'avais à faire, je préparais, voilà, je m'organisais. Et en fait, en tant que leader, je pense que le mieux que tu puisses faire, c'est montrer l'exemple pour tes employés. Donc, si tu ne le fais pas pour toi-même de prendre du temps, en fait, eux ne vont pas oser. Et donc, du coup, en fait, à un moment donné, ça crée ce côté, je suis malheureux, je vais en burn-out, j'en ai trop, je n'arrive pas à...
Ça te permet d'évacuer, d'avoir ta propre zone à toi.
Et du coup, j'ai mis la boxe le soir et le week-end pour évacuer les tensions.
Ouais. Mais uppercut first, on a compris.
Voilà.
On ne va pas aller boxer avec toi.
Je ne promets pas le niveau, mais en tout cas...
Ouais, et donc là, ouais, tu reprends un poste de management chez Datadog.
Donc là, on signe 16 nouveaux logos en 9 mois.
D'accord.
Sur l'Enterprise.
Ok, waouh. Sachant que, oui, il faut le préciser, c'est sur l'Enterprise, cycle long.
Voilà, sachant que ce qu'il faut préciser, voilà, c'est que Datadog, à l'époque, c'est pas le Datadog d'aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Donc, on a pavé la route, expérience très cool. Mais qui se termine.
Et après, c'est là où tu décides de monter ta société.
Ouais, en fait, à ce moment-là, j'ai envie de faire péter le plafond de verre.
D'accord.
À ce moment-là, j'ai envie de me dire, je vois ce qu'il y a à faire, je vois tout ce qu'il y a à faire qui est non sales. J'ai pas encore la capacité de me dire, je vais aller monter une boîte en tant que CEO, tu vois, from scratch et d'aller monter une boîte SaaS. Mais par contre, ça fait quelques années que je parle avec des VC. Depuis Sprinklr, je suis très très proche de quelques VC avec qui me font échanger avec leur CEO. Mm-hmm. Donc cette flamme s'allume d'avoir un impact fort en fait. Et je me rends compte que à chaque fois que j'ai un call avec un CEO, j'ai un impact. Et puis ça pousse du côté des VC en disant ouais, quand est-ce que tu nous rejoins, quand est-ce que tu fais un truc, etc. Et je prends une dernière boîte qui est Confluent en me disant ok, je sors du managérial et je vois ce que ça donne.
D'accord.
Et en fait c'est l'année qui me permet de vraiment me poser, voilà.
D'accord, ok.
C'est surtout tu sais, tu me disais cette peur intrinsèque, en fait, c'est de se dire ah, je lâche, tu vois, mes salaires américains pour monter ma boîte, comment je vais me payer, comment je vais tenir, etc. Donc, en fait, l'année Confluent, c'est l'année où je me dis, je suis pas heureuse dans ce que je fais parce que je suis trop mise dans une case. J'ai vraiment envie d'aller plus loin. Et c'est l'année aussi où je fais une thérapie coup de poing, tu vois, 12 séances qui pètent toutes les peurs possibles.
D'accord.
Et de me dire, voilà, on y va, on se lance.
Ouais.
C'est parti.
Et là, tu te jettes dans la fosse et tu montes ta boîte. Donc là, pour accompagner
ça
les boîtes,
ça va super vite. Ça va super vite et c'est hyper excitant. J'ai pas le temps de me dire ok, est-ce que j'ai fait le bon choix, en fait, tous les jours, en fait, en étant hyper passionnée par ce qu'on peut faire, en voyant l'impact que tu peux avoir.
Et c'est intéressant parce que au travers de tout ce que tu nous as raconté là sur ces quelques minutes, on a l'impression que à chaque fois que tu arrives sur ta comfort zone, tu arrives à un moment où non, c'est trop facile pour moi. Il faut que je passe à la suite. Raconte-nous ça un peu. Comment tu fais là?
Ouais, je pense que foncièrement, je m'ennuie en comfort zone. Ouais. Et en fait, j'ai besoin de magie. J'ai besoin de magie dans la vie. Et la magie, elle opère que quand t'es pas en confort, en fait. Tu vois, écrire le livre en termes de peste, enfin, c'est une mise à nu. Et tu vois, quand le truc il est sorti, je dis donc c'est hyper complexe à la fois faire la promotion d'un livre qui sait que les gens vont rentrer dans ta tête, en fait. Et c'est pas confortable et en même temps c'est grisant, quoi. Donc je pense que ouais, effectivement, quel que soit le next step, l'idée c'est de pas être en confort et puis de se dire il y a des choses qui tombent dessus un peu par opportunité.
Ouais.
Tu vois, c'est un jour, c'est un message LinkedIn d'un VC qui dit « Salut, j'aime bien ton parcours, est-ce qu'on peut se parler ?» Je me dis « Bon, pourquoi un VC veut me parler ?» Mais ok, alors encore une fois, aujourd'hui, ça paraît logique qu'un VC contacte un head of sales, ouais. Ça ne l'était pas forcément il y a 5 ans. Et qu'on clique et qu'ils me disent « Tu sais quoi, j'aimerais que tu parles avec des fondateurs de ma boîte et que tu vois, ça s'enclenche et qu'on garde le contact et que d'un seul coup, en fait… c'est des opportunités, ouais. tu te laisses surprendre. Moi, j'aime bien prendre des opportunités. Ouais. Et on parlait d'intuition aussi, ouais. parce que l'intuition, c'est hyper fort. Ce truc qu'on a parlé un peu off the record de si tu as du potentiel, tu as une bonne intuition, tu ne peux pas te planter. Je pense que c'est ça, c'est qu'il faut vraiment être conscient de, pas forcément de ton potentiel, parce que c'est hyper dur d'être conscient de tout ton potentiel, mais en tout cas, y croire. Ouais. Croire que tu as le potentiel et suivre la bonne intuition. Ouais. C'est-à-dire de se dire, si je ne le sens pas, j'y vais pas, quoi.
En gros, quel a été le meilleur conseil de carrière qu'on a pu te donner ?
En fait, je pense que c'est pas un conseil qu'on ait pu me donner. C'est les gens qui après chacun réagit à son propre rythme. C'est-à-dire que je pense que il faut vraiment s'écouter. Moi, je sais que j'adore être poussée. Enfin, tu vois, je suis peut-être pas Navy Seals et je vais peut-être pas te faire compte demain, mais j'aime bien qu'on me pousse, qu'on me pousse pour vraiment sortir ce que je suis capable. Il y en a qui sont pas du tout capables de ça ou qui veulent pas. Mmh. C'est pas leur truc. Mmh. Je pense que ce qui est hyper important dans un métier aussi challenging qu'on peut le faire et dans la tech et dans les startups, c'est de se dire, je choisis ce qui est en accord avec moi-même. Si tu t'es pas en accord avec toi-même, tu vas pas t'épanouir. Donc, je pense que c'est pas forcément le conseil qu'on m'a donné, mais c'est ce que j'ai appris à travers mes différentes expériences, c'est qu'il faut vraiment choisir ce qui te correspond. Mmh. Plutôt que ce qu'on attend que tu fasses.
D'accord, donc se connaître et bien choisir ce qui te correspond.
Apprendre à bien se connaître et apprendre à poser ses limites, c'est le critère de succès, parce qu'une fois que tu es dans l'environnement qui te va bien, et je pense qu'on en a déjà parlé, qui te correspond, derrière t'exploses, quoi.
Du coup, donne-nous le nom de ton livre, parce qu'on l'a brièvement évoqué, mais on n'a pas donné le nom.
C'est Popcorn for the New CEO, donc c'est écrit en anglais. Et le petit message derrière, c'est que en fait, chaque chapitre est hyper snackable, donc c'est 3 minutes, comme
d'accord,
les podcasts
ouais,
dont
ouais,
on parlait,
exactement.
C'est hyper snackable, donc comme le popcorn, et que en fait, mon objectif, c'était vraiment de simplifier des concepts qu'on retrouve dans plein de bouquins. Enfin, tu vois, il y a plein de bouquins auxquels je fais référence dans le livre, business, qui sont des gros pavés, qui sont pas hyper digestes, mais de simplifier ça pour tout le monde et de le faire hyper facile, enfin de le mettre à disposition de tout le monde, que ce soit en école de commerce ou autre. Et donc, il y a des références de films, Fiction, Batman, voilà. C'est le petit côté un peu fun qui fait que tu n'as pas l'impression de lire un gros pavé de business, mais qu'il y a quand même les bons conseils dedans.
Ouais, exactement. Et je le recommande parce que je suis également en train de le lire et ça, c'est très rapide, très succinct, mais ça envoie direct les bons messages. Donc, tu as un podcast aussi ?
Ouais.
Voilà.
C'est Muscle Up par Hypercute First. Donc, c'est des tout petits podcasts de 3 minutes avec plein de conseils sur aller chercher les pains chez les clients, aller chercher les champions. Là, on va faire les métriques, quels sont tes différenciateurs, etc. Donc,
Ok. Et comment on peut te retrouver un peu sur la toile ? On te retrouve sur LinkedIn ?
Sur LinkedIn, soit Caroline Francia, soit Hypercute First.
Voilà.
je suis assez disponible. Il y a les office hours pour ceux qui veulent sur le site web. Donc, c'est hypercute-first.com.
D'accord. Donc, on peut prendre rendez-vous.
On peut prendre rendez-vous. Oh là là. Il y a un petit filtre à l'entrée quand même. Il y a un petit filtrage à l'entrée, mais ouais, les office hours, on peut prendre rendez-vous.
Donc, t'es bien occupé, quoi.
Ouais.
Ok, bon, bah super. Encore un grand merci pour ta venue sur l'épisode.
Ça va.
Merci, Caroline.